George Orwell. ...1984. Première partie. Chapitre 1.
C'était une belle et froide journée d'avril, et les horloges sonnaient 13 coups. Winston Smith, le menton plaqué contre sa poitrine, dans un effort pour échapper au vent mauvais, se faufila rapidement à travers les portes de verre de la maison de la Victoire, mais pas encore assez rapidement pour empêcher un tourbillon de poussière d'entrer en même temps que lui. Le hall avait une odeur de choux bouillis et de vieux chiffons. À l'une des extrémités, une affiche de couleur, trop grande pour être accrochée à l'intérieur, avait été punaisée au mur. Elle montrait simplement un visage énorme, de plus d'un mètre de large, le visage d'un homme d'environ 45 ans, avec une grosse moustache noire et des traits robustes et élégants. Winston prit l'escalier. Il était inutile d'essayer l'ascenseur. Même en des temps plus favorables, il fonctionnait rarement, et à présent le courant électrique était coupé durant la journée. Cela faisait partie du programme d'économie en préparation de la semaine de la haine. L'appartement était au 7e étage, et Winston, qui avait 39 ans et avait un ulcère variqueux au-dessus de la cheville droite, montait lentement, s'arrêtant plusieurs fois en chemin. À chaque palier, en face de l'ascenseur, l'énorme visage de l'affiche le regardait depuis le mur. C'était l'une de ces images conçues de telle façon que vous aviez l'impression qu'elle vous suivait des yeux quand vous bougiez. « Big Brother te regarde », proclamait l'inscription en dessous. À l'intérieur de l'appartement, une voix fruitée égrenait une suite de chiffres qui avait quelque chose à voir avec la production de fonte brute. La voix provenait d'une plaque de métal oblongue qui ressemblait à un miroir terni et qui constituait une partie du mur de droite. Winston tourna un bouton et la voix baissa quelque peu de volume, même si on pouvait encore distinguer les mots. Le volume de l'instrument, on l'appelait un écran tel, pouvait être réduit, mais il n'y avait aucun moyen de l'éteindre complètement. Il alla jusqu'à la fenêtre. Il était petit, d'une stature frêle, la maigreur de son corps encore accentuée par le bleu de travail qui était l'uniforme du parti. Ses cheveux étaient très clairs, son visage naturellement sanguin, sa peau rendue rugueuse par le savon grossier, les rasoirs émoussés et le froid de l'hiver qui venait juste de se terminer. Au dehors, même à travers la fenêtre fermée, le monde semblait froid. En bas, dans la rue, de petits tourbillons de vent faisaient tourner de la poussière et des papiers déchirés. Le soleil brillait, et le ciel était d'un bleu intense, mais rien ne semblait avoir de couleur, à part les affiches qui étaient placardées partout. Le visage à la moustache noire dominait tous les carrefours importants. Il y en avait un sur la façade immédiatement en face. « Big Brother te regarde », proclamait l'inscription, tandis que les yeux noirs s'enfonçaient profondément dans ceux de Winston. Plus bas, au niveau de la rue, une autre affiche pliée à un coin battait au vent de façon intermittente, recouvrant et découvrant alternativement un mot unique, « Sosang ». Au loin, un hélicoptère se faufila entre les toits, plana un moment comme une mouche à viande et s'éloigna rapidement en dessinant une courbe. C'était la patrouille de police qui fouinait en regardant à travers les fenêtres des gens. Les patrouilles n'avaient pas d'importance toutefois. Seul comptait la police de la pensée. Dans le dos de Winston, la voix de l'écran tel continuait à babiller à propos de la fonte brute et du parfait accomplissement du 9e plan triennal. L'écran tel émettait et recevait en même temps. Tous les sons que pouvait produire Winston, au-dessus d'un très léger soupir, pouvaient être captés. Mieux encore, tant qu'il restait dans le champ de vision de la plaque de métal, il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Il n'y avait bien sûr aucun moyen de savoir si vous étiez observé à un moment donné. Avec quelle fréquence, ou selon quelle logique, La police de la pensée se connectait-elle à un individu en particulier? C'était un mystère. On pouvait même imaginer qu'ils observaient tout le monde, en permanence. Mais en tout cas, ils pouvaient se brancher sur vous quand ils le voulaient. Vous deviez vivre, vous viviez, car l'habitude devient un instinct, en partant du principe que le moindre son que vous produisiez pouvait être surpris et que le moindre mouvement, sauf dans l'obscurité, pouvait être examiné. Winston continuait à tourner le dos à l'écrantelle. C'était plus sûr, même s'il savait bien que même un dos pouvait être révélateur. À 1 kilomètre de là, le ministère de la vérité, où il travaillait, s'élevait, vaste et blanc, au-dessus du paysage crasseux. Cela, pensait-il avec un vague dégoût, c'était Londres, ville principale de la première région aérienne, elle-même la 3e région la plus peuplée de l'Océanie. Il essaya de retrouver un souvenir d'enfance qui pourrait lui rappeler si Londres avait toujours été ainsi. Y avait-il toujours eu ce panorama de maisons pourrissantes du 19e siècle, leurs murs soutenus par des poutres, leurs fenêtres réparées avec du carton, leurs toits avec de la tôle ondulée, les murs délabrés des jardins s'affaissant dans toutes les directions? Et les sites bombardés, où la poussière de plâtre tourbillonnait dans les airs et les épilobes poussant sur les tas de gravats? Et ces endroits où les bombes avaient dégagé une grande superficie de terrain et où avaient poussé de sordides colonies de bâtiments de bois ressemblant à des poulaillers? Mais c'était inutile. Il ne se souvenait pas. Rien ne restait de son enfance, à part une série de tableaux lumineux, sans aucun arrière-plan et pratiquement incompréhensibles. Le ministère de la vérité, Miniver en 9 langues, la 9e langue était la langue officielle de l'Océanie, pour une présentation de sa structure et de son étymologie, voire l'appendice, différait étonnamment de tous les autres objets visibles. C'était une énorme structure pyramidale de béton blanc étincelant, s'élançant terrasse après terrasse à 300 mètres du sol. De là où se tenait Winston, on pouvait lire les 3 slogans du parti qui s'étalaient en lettres élégantes sur sa façade blanche.
La guerre, c'est la paix. La liberté est un esclavage. L'ignorance est une force.
Le ministère de la vérité contenait, disait-on, 3000 salles au-dessus du sol et des ramifications équivalentes sous terre. 3 autres bâtiments similaires en apparence et en taille se trouvaient à Londres. Ils écrasaient tellement l'architecture environnante que depuis le toit de la Maison de la Victoire, vous pouviez voir les 4 simultanément. Ils abritaient les 4 ministères qui constituaient entièrement l'appareil du gouvernement, le ministère de la vérité, qui s'occupait de l'information, des loisirs, de l'éducation et des beaux-arts, le ministère de l'amour, qui maintenait l'ordre et la loi, le ministère de l'abondance, qui était responsable des questions économiques. Leur nom, en 9 langues, Miniver, Minipax, Minimour et Minibondance. Le ministère de l'amour était celui qui était réellement effrayant. Il ne comportait aucune fenêtre. Winston n'était jamais entré dans le ministère de l'amour. Il ne l'avait même jamais approché, à moins d'un 0,5 kilomètre. C'était un endroit où l'on ne pouvait pénétrer que pour des raisons officielles. Et même alors, on y accédait qu'en traversant un enchevêtrement labyrinthique de barbelés, de portes d'acier et de nids de mitrailleuses dissimulés. Même les rues qui menaient à ces barrières, extérieur, était quadrillé par des gardes en uniforme noir et à face de gorille, armés de matraques articulées. Winston se retourna soudain. Il avait composé sur ses traits cette expression d'optimisme tranquille qu'il était prudent d'arborer lorsqu'on faisait face à l'écrantelle. Il traversa la pièce pour se rendre dans la petite cuisine. En quittant le ministère à 7 heures de la journée, il avait sacrifié son repas à la cantine, et il savait qu'il n'y avait aucune nourriture à la cuisine, à part un morceau de pain noir qu'il devait garder pour le petit déjeuner du lendemain. Il prit sur l'étagère une bouteille d'un liquide incolore, dont l'étiquette blanche indiquait « Gin de la Victoire ». Le liquide répandait une odeur écœurante, huileuse, comme celle de l'alcool de riz chinois. Winston s'en remplit presque une tasse à thé, puis, après s'être préparé au choc, l'avala comme un médicament. Instantanément, son visage devint écarlate, et des larmes jaillirent de ses yeux. C'était comme de l'acide nitrique, et quand vous l'avaliez, vous aviez même la sensation d'être frappé dans le dos par une matraque en caoutchouc. L'instant d'après, cependant, La brûlure dans son ventre s'apaisa, et le monde commença à lui paraître plus gai. Il sortit une cigarette d'un paquet chiffonné marqué « Cigarette de la victoire », et par mégarde, la tint verticalement, ce qui eut pour effet de répandre le tabac sur le sol. Avec la suivante, il fut plus heureux. Il retourna au salon et s'assit à une petite table qui se trouvait à gauche de l'écrantelle. Il sortit du tiroir un porte-plume, une bouteille d'encre et un épais in-quarto vierge avec un dos rouge et une couverture marbrée. Pour une raison ou pour une autre, l'écrantelle du salon était placée d'une façon inhabituelle. Au lieu d'être fixée, comme il était d'usage, sur le mur du fond, d'où il pouvait voir l'ensemble de la pièce, il se trouvait sur le grand mur en face de la fenêtre. Sur l'un des côtés se trouvait une alcôve, peu profonde, où Winston se trouvait maintenant assis, et qui, lorsque les appartements avaient été construits, était sans doute destinée à recevoir une bibliothèque. En s'asseyant dans cette alcôve, et en se tenant bien en arrière, Winston pouvait rester caché de l'écrantelle, en tout cas visuellement. Il pouvait être entendu, bien sûr, mais tant qu'il restait dans sa position actuelle, il ne pouvait être vu. C'était en partie cette disposition inhabituelle de la pièce qui lui avait suggéré ce qu'il s'apprêtait à faire. Mais c'était aussi le livre qu'il venait de sortir du tiroir qui lui en avait donné l'idée. C'était un livre particulièrement beau. Son papier était doux et crémeux, un peu jauni par le temps, et on n'en avait pas produit de pareil depuis au moins 40 ans. Il devinait cependant que le livre était beaucoup plus vieux que cela. Il l'avait vu traîner dans la vitrine d'un bazar négligé d'un quartier sordide de la ville. Quel quartier exactement, il ne s'en souvenait plus, et avait été immédiatement envahi par un désir irrépressible de le posséder. Les membres du parti n'étaient pas supposés se rendre dans les magasins ordinaires, acheter au marché libre, comme on disait. Mais la règle n'était pas suivie trop scrupuleusement, car il y avait un certain nombre d'articles, comme des lacets ou des lames de rasoir, qu'on ne pouvait pas se procurer autrement. Il avait jeté un rapide coup d'œil à droite et à gauche dans la rue, s'était glissé à l'intérieur et avait acheté le livre pour 2,50 $. À ce moment, il n'avait pas l'intention de l'utiliser dans un but précis. Il l'avait ramené à la maison dans sa serviette, se sentant coupable, même vierge de toute écriture, c'était une possession compromettante. Ce qu'il s'apprêtait à faire, c'était ouvrir un journal. Ce n'était pas illégal. Rien n'était illégal, puisqu'il n'y avait plus de loi. Mais s'il était pris, il était presque certain qu'il serait condamné à mort, ou au minimum à 25 ans de camp de travail. Winston mit une plume dans le porte-plume et la susauta pour enlever la graisse. Il s'agissait d'un instrument archaïque, rarement utilisé même pour les signatures, et il se l'était procuré, furtivement et avec quelques difficultés, tout simplement parce que le beau papier crémeux méritait de sentir le contact d'une vraie plume et pas d'être gratté par un stylo à encre. À vrai dire, il n'avait pas l'habitude d'écrire à la main. À part de très courtes notes, il était d'usage de toujours utiliser le dictascript, ce qui était évidemment impossible pour ce qu'il s'apprêtait à faire. Il plongea la plume dans l'encre et hésita un instant. Un tremblement lui agitait les entrailles. Le premier trait de plume allait être un acte décisif. En petites lettres maladroites, il écrivit
« 4 avril 1984 ».
Il s'enfonça dans son siège. Un sentiment de complète impuissance s'était emparé de lui. Pour commencer, il n'était pas absolument sûr qu'on fût en 1984. Ce devait être à peu près la bonne date, puisqu'il était bien certain d'avoir 39 ans, et pensait être né en 1944 ou 1945, mais de nos jours, il n'était jamais possible de s'assurer d'une date à 1 ou 2 ans près. Pour qui donc, se demanda-t-il soudain, écrivait-il ce journal? Pour le futur? Pour ceux qui étaient encore à naître? Son esprit s'égara un moment sur la date douteuse qu'il avait portée sur la page, puis se retrouva avec un choc face au mot neuve langue, pensée double. Pour la première fois, il réalisa l'ampleur de ce qu'il avait entrepris. Comment pourrait-on communiquer avec le futur? C'était par nature impossible. Si le futur ressemblait au présent, il ne l'écouterait pas, et s'il était différent, son avertissement n'aurait alors aucun sens. Pendant un moment, il resta à contempler stupidement le papier. Les crantelles diffusaient maintenant une musique militaire stridente. Il était curieux qu'il eût non seulement perdu la capacité de s'exprimer, mais même qu'il eût oublié ce qu'il avait eu, originellement, l'intention d'écrire. Depuis des semaines, il s'était préparé à ce moment, et il ne lui était jamais venu à l'esprit que tout ce dont il aurait besoin, ce serait du courage. Écrire en soi, c'était facile. Tout ce qu'il avait à faire, c'était retranscrire sur le papier l'interminable et fiévreux monologue qui roulait littéralement dans sa tête depuis des années. À ce moment, toutefois, même le monologue s'était tari. De plus, son ulcère variqueux avait commencé à le démanger horriblement. Il n'osait pas se gratter, car, quand il le faisait, il en était toujours quitte pour une inflammation. Les secondes s'égrenaient. Il n'était conscient de rien, sauf de la blancheur de la page qui était en face de lui, de sa peau qui le démangeait au-dessus de la cheville, du braillement de la musique et de la légère ivresse causée par le gin. Soudain, il se mit à écrire, comme pris de panique, seulement vaguement conscient des mots qu'il couchait sur le papier. Sa petite écriture infantile se répandait sur la page, commençant par oublier les majuscules, puis finalement même les points.
4 avril 1984, passé la soirée au ciné. Que des films de guerre. L'un d'eux très bon, l'histoire d'un bateau plein de réfugiés bombardés en Méditerranée. Public amusé par des scènes d'un gros homme essayant de fuir un hélicoptère qui le poursuivait. D'abord, on le voyait se vautrer dans l'eau comme un marsouin, puis à travers les viseurs de l'hélicoptère. Puis, il était plein de trous et la mer autour de lui devenait rose et il coulait aussi vite que si les trous avaient laissé entrer l'eau. Le public éclatait de rire tandis qu'il coulait. Puis, on voyait un canot de sauvetage plein d'enfants survolé par un hélicoptère. Il y avait une femme entre deux âges qui aurait pu être une juive, assise à l'avant avec un petit garçon d'environ 3 ans dans les bras. Le petit garçon hurlait de terreur et cachait sa tête entre ses seins, comme s'il essayait de se cacher en elle. Et la femme passait ses bras autour de lui et essayait de le réconforter, même si elle était elle-même pâle de frayeur, essayant de le couvrir le plus possible avec ses bras, comme si elle pensait que cela pourrait arrêter les balles. Alors, l'hélicoptère lâcha sur eux une bombe de 20 kilos, flash terrifiant, et tout le bateau n'était plus que du petit bois. Ensuite, il y a eu un plan magnifique d'un bras d'enfant qui montait tout droit en l'air. Un hélicoptère avec une caméra avait dû le suivre, et il y a eu beaucoup d'applaudissements en provenance des sièges du parti. Mais une femme dans la partie réservée aux prolétaires a commencé à faire un scandale et a crié qu'il ne devrait pas se permettre de montrer ça, pas devant des enfants. Il n'avait pas le droit de montrer ça devant des enfants, non. Jusqu'à ce que la police la mette dehors, je ne crois pas qu'il lui soit arrivé quelque chose. Personne ne s'inquiète de ce que disent les prolétaires. Réaction typique de prolétaires. Jamais il ne...
Winston arrêta d'écrire, en partie parce qu'il avait une crampe. Il ne savait pas pourquoi il avait déversé une telle quantité d'absurdité. Mais ce qui était curieux, c'était que tandis qu'il écrivait, un autre souvenir, totalement différent, s'était fait jour dans son esprit, à tel point qu'il se sentait presque capable de l'écrire. Il le comprenait maintenant. C'était à cause de cet autre incident qu'il avait soudain décidé de rentrer chez lui et de commencer son journal le jour même. C'était arrivé ce matin-là, au ministère, si on pouvait dire de quelque chose d'aussi imprécis que c'était « arrivé ». Il était presque 11h00, et au département des archives, où travaillait Winston, on tirait les chaises hors des box afin de les regrouper au centre du hall en face du grand écran tel, en préparation des 2 minutes de la haine. Winston venait tout juste de prendre place dans une des rangées du milieu, lorsque 2 personnes qu'il connaissait de vue, mais qui ne lui avait jamais parlé, entrèrent inopinément dans la pièce. L'une d'elles était une fille qu'il avait souvent croisée dans les couloirs. Il ne connaissait pas son nom, mais il savait qu'elle travaillait au service des fictions. On pouvait supposer, puisqu'il l'avait parfois vue avec les mains graisseuses et munies d'un outil, qu'elle avait une fonction technique sur l'une des machines à écrire des romans. C'était une fille au regard audacieux, d'environ 27 ans, avec les cheveux épais, des taches de rousseur et des mouvements rapides et athlétiques. Une étroite ceinture écarlate, emblème des jeunesses antisexes, était enroulée plusieurs fois autour de sa taille, par-dessus son bleu de travail, juste assez serrée pour mettre en valeur la finesse de ses hanches. Elle avait déplu à Winston, à l'instant même où il l'avait vue. Il savait pourquoi. C'était à cause de cette atmosphère de terrain de hockey, de bain froid, de randonnée en groupe, et plus généralement de rectitude bien pensante dont elle était environnée. La plupart des femmes lui déplaisaient, et particulièrement celles qui étaient jeunes et jolies. C'était toujours les femmes, et surtout les jeunes, qui étaient les plus bigotes adeptes du parti, les avaleuses de slogans, les espionnes amatrices et les renifleuses d'hétérodoxie. Mais cette fille en particulier lui donnait l'impression d'être plus dangereuse que la plupart des autres. Une fois qu'ils se croisaient dans le couloir, elle lui avait lancé un rapide regard de côté qui lui sembla le percer de part en part et qui, pour un moment, l'avait empli d'une sombre terreur. Une idée lui avait même traversé l'esprit. Elle pouvait être un agent de la police de la pensée. C'était à vrai dire très improbable, mais il continuait à éprouver un sentiment de malaise qui était fait de peur mais aussi d'hostilité à chaque fois qu'elle se trouvait près de lui. L'autre personne était un homme nommé O'Brien, un membre du cercle intérieur du parti et titulaire d'un poste si important et si lointain que Winston n'avait qu'une vague idée de sa nature. Un silence momentané envahit le groupe de personnes qui se tenaient près des chaises lorsqu'elles virent approcher la combinaison noire d'un membre du cercle intérieur du parti. O'Brien était un homme grand, de forte carrure, avec un cou épais et un visage grossier, sanguin et brutal. En dépit de cette apparence impressionnante, ses manières avaient toutefois un certain charme. Il avait un tic de remettre sans cesse en place ses lunettes sur son nez, qui était curieusement désarmant, d'une façon indéfinissable, étrangement civilisée. C'était un geste qui, s'il avait encore existé des gens pour utiliser de tels termes, aurait évoqué un gentilhomme du XVIIIe siècle offrant sa tabatière. Winston avait peut-être vu O'Brien une douzaine de fois pendant toutes ces années. Il se sentait profondément attiré vers lui, et pas seulement parce qu'il était intrigué par le contraste entre les manières urbaines d'O'Brien et son physique de boxeur. Non, c'était surtout à cause de la secrète impression, et peut-être même pas une impression, mais un espoir, que l'orthodoxie d'O'Brien n'était pas parfaite. Quelque chose, dans son visage, le suggérait sans aucun doute, et encore une fois, peut-être n'était-ce pas l'hétérodoxie d'O'Brien qui s'imprimait sur son visage, mais simplement l'intelligence. Mais en tout cas, il avait l'apparence d'un homme à qui on pourrait parler si d'aventure on parvenait à berner les crantelles et à être seul avec lui. Winston n'avait jamais fait le moindre effort pour vérifier cette intuition. À vrai dire, il n'y avait aucun moyen d'y parvenir. À ce moment, O'Brien jeta un regard à sa montre de poignet, constata qu'il était presque 11:00 et à l'évidence décida de rester au département des archives jusqu'à la fin des 2 minutes de la haine. Il prit place sur la même rangée que Winston, à quelques chaises de lui. Une petite femme aux cheveux de sable, qui travaillait dans le box adjacent à celui de Winston, se trouvait entre eux. La fille aux cheveux noirs était juste derrière. Le moment d'après, un bruit monstrueux et grinçant, comme une machine qui tournerait sans huile, éclata en provenance du grand écrantel au bout de la pièce. C'était un bruit à vous faire grincer des dents et à vous dresser les cheveux sur la nuque. La haine avait commencé. Comme toujours, le visage d'Emmanuel Goldstein, l'ennemi du peuple, était apparu sur l'écran. Il y eut des huées ici ou là parmi le public. La petite femme blonde émit un couinement de peur mêlé de dégoût. Goldstein était le renégat perpétuel qui, des années auparavant, combien d'années, nul ne le savait au juste, avait été l'un des leaders du parti, presque au niveau de Big Brother lui-même, puis s'était engagé dans des activités contre-révolutionnaires, avait été condamné à mort et s'était mystérieusement enfui et avait disparu. Le programme des 2 minutes de la haine variait de jour en jour, mais il n'y avait pas une fois où Goldstein n'en était pas le personnage principal. Il était le traître primordial, le premier profanateur de la pureté du parti. Tous les crimes ultérieurs commis contre le parti, toutes les traîtrises, les actes de sabotage, hérésie, déviance, relevaient directement de ses enseignements. Quelque part, il était toujours vivant et fomentait ses conspirations. Peut-être par-delà les mers, sous la protection de ses maîtres étrangers, peut-être même, comme on le murmurait parfois, dans quelques cachettes au sein même de l'Océanie. Le diaphragme de Winston s'était contracté. Il ne pouvait jamais voir le visage de Goldstein sans éprouver un douloureux mélange d'émotions. Il avait un maigre visage de juif, avec une grande auréole de cheveux blancs et pelucheux, une barbe de bouc, un visage intelligent, mais fondamentalement méprisable, avec une sorte de sottise sénile dans ce long nez sur le bout duquel était perché une paire de lunettes. Son visage ressemblait à celui d'un mouton, et sa voix, elle aussi, évoquait une chèvre. Goldstein récitait son habituelle attaque venimeuse contre les doctrines du parti, une attaque tellement exagérée et perverse qu'un enfant n'en aurait pas été dupe, et pourtant juste assez plausible pour vous faire éprouver le sentiment inquiétant que d'autres personnes, moins équilibrées, pourraient s'y laisser prendre. Il injuriait Big Brother, il dénonçait la dictature du parti, il demandait la paix immédiate avec l'Eurasie, il réclamait la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté de penser. Il hurlait hystériquement que la révolution avait été trahie, et le tout dans un rapide phrasé polysyllabique qui était une parodie du style habituel des orateurs du parti et qui contenait même des mots de neuf langues. Plus de mots de neuf langues, en vérité, qu'un membre du parti n'en aurait utilisé dans la vie réelle. Et pendant ce temps, si quelqu'un avait le moindre doute quant à la réalité que recouvrait le boniment de Goldstein, derrière lui, sur l'écran tel, marchaient les colonnes sans fin de l'armée eurasienne, rang après rang, des hommes robustes avec des visages d'asiatiques dénués d'expression, qui traversaient la surface de l'écran puis s'évanouissaient pour être remplacés par d'autres en tout point similaires. Le martèlement sourd des bottes des soldats formait l'arrière-plan de la voix chevrotante de Goldstein. Avant que la haine n'ait duré 30 secondes, la moitié des personnes présentes dans la pièce poussaient déjà d'incontrôlables exclamations de rage. Le visage à face de mouton, satisfait de lui-même, et la terrifiante puissance de l'armée eurasienne derrière lui étaient plus qu'il n'en pouvait supporter. D'ailleurs, la simple vue ou même la simple pensée de Goldstein déclenchait systématiquement la peur et la colère. Il était un objet de haine plus constant que l'Eurasie ou l'Estasie. Car lorsque l'Océanie était en guerre avec l'un de ces pays, elle était généralement en paix avec l'autre. Mais ce qui était étrange, c'était que même si Goldstein était haï et méprisé par tout un chacun, même si chaque jour et 1000 fois par jour, sur les estrades, sur l'écran tel, dans les journaux, les livres, ces théories étaient réfutées, attaquées, ridiculisées, exposées à tous dans leur pitoyable sottise. En dépit de tout cela, son influence ne semblait pas décroître. Il y avait toujours de nouvelles dupes qui attendaient de se laisser séduire. Il ne se passait pas un jour sans que des espions ou des saboteurs agissant selon ses instructions ne soient démasqués par la police de la pensée. Il commandait à une vaste armée ténébreuse, un réseau souterrain de conspirateurs voués à la destruction de l'État et qui s'appelait, à ce qu'on disait, la confrérie. On murmurait aussi des histoires à propos d'un livre terrible, une compilation de toutes les hérésies dont Goldstein était l'auteur et qui circulait clandestinement ici ou là. C'était un livre qui n'avait pas de titre. Les gens y faisaient référence, quand ils le faisaient, en disant « Le livre ». Mais on ne savait rien de ces choses, sinon par de vagues rumeurs. Le livre, ou la confrérie, n'étaient pas des sujets qu'un membre ordinaire du parti abordait s'il pouvait faire autrement. Dans sa seconde minute, la haine atteignit son paroxysme. Les gens sautaient sur place et criaient aussi fort qu'ils le pouvaient pour essayer de couvrir l'insupportable voix bêlante qui venait de l'écran. La femme aux cheveux de sable était devenue écarlate, et sa bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. Même le gros visage d'O'Brien était rouge. Il se tenait assis tout droit dans sa chaise, sa poitrine puissante se soulevant et s'abaissant comme s'il se préparait à faire face à l'assaut d'une vague. La fille aux cheveux bruns derrière Winston avait commencé à crier « Fumier ! Fumier ! Fumier !» Et soudain, elle saisit un lourd dictionnaire de 9 langues et le lança sur l'écran. L'objet rebondit sur le nez de Goldstein. La voix continua, inexorablement. Dans un moment de lucidité, Winston s'aperçut qu'il criait avec les autres et donnait de violents coups de talon contre les barreaux de sa chaise. Ce qui était horrible avec les 2 minutes de la haine, c'est que personne n'était obligé d'y prendre part, mais qu'au contraire, il était presque impossible de s'empêcher de s'y joindre. Au bout de 30 secondes, tout faux semblant devenait inutile. Une monstrueuse extase faite de peur et de désir de vengeance, de meurtre, de torture, d'une envie de frapper des visages à coups de masse, semblait se répandre parmi le groupe comme un courant électrique, transformant chacun, contre sa volonté, en un fou hurlant et grimaçant. Et pourtant, la rage que chacun ressentait était une émotion abstraite et indirecte qui pouvait passer d'un objet à un autre comme le faisceau d'un projecteur. Ainsi, à un moment, la haine de Winston n'était pas dirigée du tout contre Goldstein, mais au contraire, contre Big Brother, le parti et la police de la pensée. Et à ces moments-là, son cœur allait vers le pauvre hérétique solitaire ridiculisé sur l'écran, seul gardien de la vérité et de la raison dans un univers de mensonges. Et pourtant l'instant d'après, il ne faisait plus qu'un avec ceux qui l'entouraient, et tout ce qui était dit sur Goldstein lui semblait vrai. Durant ces moments, sa haine secrète de Big Brother se changeait en adoration, et Big Brother paraissait se dresser comme un roc contre les hordes d'Asie, tel un protecteur invincible et sans peur, et Goldstein, malgré son isolement, son impuissance et le doute qui planait sur son existence même, évoquait quelque sinistre enchanteur, capable par le seul pouvoir de sa voix de faire vaciller les fondements de la civilisation. Il était même possible, par moments, de faire basculer sa haine d'un côté ou de l'autre par un acte de volonté. Soudain, par un violent effort analogue à celui par lequel le dormeur arrache sa tête de l'oreiller lors d'un cauchemar, Winston parvint à transférer sa haine depuis le visage sur l'écran vers la fille aux cheveux bruns qui était derrière lui. Des hallucinations magnifiques et précises lui traversèrent l'esprit. Il la fouettait à mort avec une matraque de caoutchouc. Il l'attachait nue à un poteau et la criblait de flèches, comme Saint-Sébastien. Il la violait et lui tranchait la gorge au moment de la jouissance. Il comprenait maintenant, mieux qu'auparavant, pourquoi il la haïssait. Il la haïssait parce qu'elle était jeune et jolie et asexuée, parce qu'il voulait coucher avec elle et ne pourrait jamais le faire, parce qu'autour de sa taille souple, qui semblait vous inviter à l'entourer de votre bras, il y avait cette odieuse ceinture écarlate, agressif symbole de chasteté. La haine parvint à son paroxysme. La voix de Goldstein était devenue un véritable bêlement, et pendant un instant son visage se changea en une face de chèvre. Puis celle-ci fut remplacée par le visage d'un soldat eurasien qui semblait avancer, immense et terrible, dans le grondement de sa mitrailleuse et semblant jaillir de la surface de l'écran, si bien que certaines des personnes du premier rang se radossèrent brusquement contre leur siège. Mais au même moment, au plus grand soulagement de chacun, le visage hostile se changea en celui de Big Brother, à la moustache et aux cheveux noirs, puissant et plein d'un calme mystérieux et si vaste qu'il remplissait presque entièrement l'écran. Personne n'entendit ce que disait Big Brother. Ce n'était que quelques mots d'encouragement, le genre de mots que l'on prononce au plus fort de la bataille, incompréhensibles individuellement, mais qui redonnaient confiance par le simple fait qu'ils étaient prononcés. Puis le visage de Big Brother disparut à nouveau, et à sa place les trois slogans du parti surgirent en lettres capitales.
La guerre, c'est la paix. La liberté est un esclavage. L'ignorance est une force.
Mais le visage de Big Brother sembla persister quelques secondes sur l'écran, comme si l'impression qu'il avait faite sur les rétines de chacun était trop forte pour qu'elle pût disparaître immédiatement. La petite jeune femme aux cheveux de sable s'était jetée en avant contre le dos de la chaise qui se trouvait devant elle. Dans un murmure tremblotant qui sonnait comme « Mon sauveur », elle tendait les bras en direction de l'écran. Puis elle enfouit son visage dans ses mains. Il était visible qu'elle était en train de prier. À ce moment, tout le groupe se mit à entonner un chant profond, lent, rythmique. « Bébé, bébé ». Encore et encore. Très lentement, avec une longue pause entre le premier B et le second, un profond murmure sonore, d'une certaine façon curieusement sauvage, derrière lequel on avait l'impression d'entendre le martèlement de pieds nus et le martèlement du tam-tam. Cela dura peut-être 30 secondes. C'était un refrain qu'on entendait souvent dans ces moments d'émotion débordante. Pour partie, c'était une sorte d'hymne à la sagesse et à la majesté de Big Brother, mais plus encore, c'était un acte d'auto-hypnotisme, un engloutissement délibéré de la conscience par le biais de ce son rythmique. Les entrailles de Winston lui semblèrent se glacer. Pendant les 2 minutes de la haine, il ne pouvait s'empêcher de participer au délire collectif. Mais ce chant primitif, B, 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 l'avait toujours empli d'horreur. Mais bien sûr, il chantait avec les autres. Il était impossible de faire autrement. Dissimuler ses émotions, contrôler son visage, faire ce que tout le monde faisait, était une réaction instinctive. Mais il était possible que pendant 2 secondes, l'expression de ses yeux puisse le trahir. Et c'était exactement à ce moment que l'événement significatif s'était produit, si en tout cas il s'était produit. Un instant, il capta le regard d'O'Brien. O'Brien s'était levé. Il avait retiré ses lunettes et était occupé à les réajuster sur son nez de son geste caractéristique. Mais il y eut une fraction de seconde où leurs regards se croisèrent, et pendant ce bref instant, Winston sut, oui, il sut, qu'O'Brien pensait exactement la même chose que lui. Un message sur lequel on ne pouvait se méprendre était passé. C'était comme si leurs deux esprits s'étaient ouverts et que les pensées s'écoulaient de l'un vers l'autre par le regard. « Je suis avec vous », semblait lui dire O'Brien. « Je sais précisément ce que vous ressentez. Je sais tout de votre mépris, de votre haine, de votre dégoût. Mais ne vous inquiétez pas, je suis de votre côté. » Et alors, l'éclair de compréhension disparut et le visage d'O'Brien redevint aussi impénétrable que celui de n'importe qui. Ce fut tout, et déjà, il n'était plus certain qu'il fût arrivé quoi que ce fût. De tels incidents n'avaient jamais aucune suite. Leur seule conséquence était de maintenir vivante en lui la croyance, ou l'espoir, que d'autres, à part lui, étaient les ennemis du parti. Peut-être, après tout, les rumeurs de vastes conspirations secrètes étaient-elles vraies? Peut-être la confrérie existait-elle vraiment? Il était impossible, en dépit des arrestations, des confessions et des exécutions continuelles, d'être certain que la confrérie n'était pas tout simplement un mythe. Certains jours, il le croyait, d'autres non. Il n'y avait aucune preuve, à part de vagues impressions qui pouvaient vouloir tout dire ou ne rien dire. Des bribes de conversation, de vagues gribouillages sur les murs des toilettes. Parfois même, lorsque 2 étrangers se rencontraient, un petit mouvement de la main qui pouvait ressembler à un signal de reconnaissance. Il n'était sûr de rien. Il était très probable qu'il ait tout imaginé. Il était retourné dans son box sans avoir lancé un autre regard à O'Brien. L'idée de prolonger leur contact momentané lui avait traversé l'esprit. Cela aurait été inconcevablement dangereux, même s'il avait su comment s'y prendre. Pendant 1 seconde, 2 secondes, ils avaient échangé un coup d'œil équivoque. Fin de l'histoire. Mais même cela était un événement mémorable dans la complète solitude où il lui fallait vivre. Winston se redressa sur son siège. Il poussa un rot. Le gin lui remontait de l'estomac. Son regard se concentra à nouveau sur la page. Il s'aperçut que, tandis qu'il rêvassait, il avait continué à écrire comme par automatisme. Et ce n'était plus du tout la même écriture serrée et maladroite. Sa plume avait glissé voluptueusement sur le papier lisse, traçant en large capitale bien nette
« Abba Big Brother, Abba Big Brother, Abba Big Brother, Abba Big Brother, Abba Big Brother. »
Encore et encore, remplissant presque une demi-page. Il ne put s'empêcher d'être gagné par une vague de panique. C'était absurde, car le fait d'écrire ces mots en particulier n'était pas plus dangereux que l'action initiale d'ouvrir le journal. Mais pendant un moment, il fut tenté de déchirer les pages souillées et d'abandonner toute l'entreprise. Il n'en fit rien toutefois, car il savait que c'était inutile. Qu'il ait écrit à Abba Big Brother ou qu'il s'en soit abstenu, cela ne faisait aucune différence. Qu'il continue le journal ou qu'il ne le continue pas, cela ne faisait aucune différence. La police de la pensée le prendrait de toute façon. Il avait commis, et il aurait commis, même s'il n'avait pas posé la plume sur le papier, le crime originel qui contenait en lui tous les autres crimes. Crime de pensée, il disait. Un crime de pensée n'était pas quelque chose qu'on pouvait cacher pour toujours. Vous pouviez donner le change pendant un moment, même pendant des années, mais tôt ou tard, il finissait par vous avoir. Cela se passait toujours la nuit. Les arrestations se déroulaient toujours la nuit. Un réveil soudain, une main ferme qui se posait sur l'épaule, la lumière dans les yeux, des visages durs tout autour du lit. Dans l'immense majorité des cas, il n'y avait pas de procès, pas de rapport d'arrestation. Votre nom était retiré des archives, toutes les traces de tout ce que vous aviez pu faire étaient supprimées, votre existence même était niée, puis oubliée. Vous étiez aboli, annihilé, vaporisé, c'était le terme consacré. Pendant un moment, il fut gagné par une sorte d'hystérie. Il commença à gribouiller, négligemment et avec précipitation.
« Ils vont m'abattre. Ça m'est égal qu'ils m'abattent d'une balle dans la nuque. Ça m'est égal. Abba Big Brother. Ils vous tirent toujours dans la nuque. Ça m'est égal. Abba Big Brother. »
Il se redressa sur son siège, légèrement honteux de lui-même, et posa sa plume. L'instant d'après, il sursauta violemment. On frappait à la porte. « Déjà ?» Il se fit aussi silencieux qu'une souris, dans l'espoir futile que celui qui avait frappé, quel qu'il fût, partirait après une seule tentative. Mais non, on frappa à nouveau. La pire des choses à faire était de se faire attendre. Son cœur battait comme un tambour, mais son visage, habitué depuis toujours, était probablement sans expression. Il se leva et se dirigea lourdement vers la porte.